Radio Prague, les informations.
Bonjour, la loi sur les conflits d'intérêts a été adoptée. Andrei Babich entend consulter ses avocats. Mikhail Gorbatchev a annulé sa visite en République tchèque pour des raisons de santé. Puis enfin, sport en hockey sur glace. Dernier test pour les Tchèques ce mercredi contre une sélection nord-américaine avant le début de la Coupe du Monde. La Chambre des députés a adopté ce mercredi la version renforcée de la loi visant à lutter contre les conflits d'intérêts. Cet amendement doit permettre notamment de limiter les activités des membres du gouvernement dans le monde des affaires, activités qui pourraient influencer l'exercice indépendant de leurs fonctions publiques. Le texte empêchera également les ministres d'être les propriétaires de médias. Vice-premier ministre, ministre des Finances et leader du mouvement ANO, le milliardaire Andrei Babich et la cible principale de cette loi. Parallèlement à ses fonctions publiques, Andrei Babich est également le président d'un important groupe agroalimentaire et d'un groupe de médias. Suite au vote, il a réagi en faisant savoir qu'il entendait attendre la suite de la procédure législative, avec d'abord l'examen du texte par le Sénat avant de consulter éventuellement ses avocats. Andrei Babich a par ailleurs refusé l'étiquette d'oligarque et affirme qu'il se comporte de façon tout à fait transparente. Plus de précision sur le sujet dans quelques instants dans la rubrique « Faits et événements ». Attendu en République tchèque pour 3 jours à la fin de cette semaine, Mikhail Gorbatchev a annulé sa visite pour des raisons de santé. L'information a été annoncée ce mercredi par ses médecins qui n'ont toutefois pas donné plus de précisions sur la nature de la maladie. À Prague, le dernier président de l'URSS, qui est âgé de 85 ans, devait participer à une conférence sur le thème de la sécurité dans le monde après la fin de la guerre froide. Malgré cette absence de dernière minute, la manifestation, qui réunira plus de 300 participants, se tiendra bien comme prévu. Au programme de la visite de Mikhail Gorbatchev en République tchèque figurait également une rencontre avec le président de la République, Miloš Zeman, et ce, au château de Lani. Le ministère tchèque de la Défense prépare l'envoi d'une unité médicale en Irak, comme annoncé ce mardi par le ministre Martin Stropnitsky. Le projet sera très prochainement présenté au gouvernement. Il devra ensuite être approuvé par le Parlement. D'après le ministre de la Défense, l'équipe médicale en question compterait environ 15 personnes et serait spécialisée dans des interventions chirurgicales auprès des soldats blessés. Sa mission devrait durer 6 mois, mais elle pourrait être prolongée. Prague accueille à partir de ce mercredi et jusqu'au 16 septembre le 24e Forum économique et environnemental convoqué par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, dont la présidence est assurée cette année par l'Allemagne. Quelques 200 délégués représentant les pays membres de l'OSCE, c'est-à-dire donc l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Différentes institutions et organisations non gouvernementales discutent dans le cadre du forum de la lutte contre la corruption ainsi que des thèmes liés à la migration et à la sécurité. Un mot de sport, l'équipe de République tchèque de hockey sur glace affronte la sélection d'Amérique du Nord ce mercredi à Pittsburgh aux États-Unis pour son dernier match de préparation à la Coupe du Monde. La représentante est arrivée aux États-Unis lundi après 2 premières rencontres contre la Russie la semaine dernière, 2 rencontres qui se sont soldées par une défaite à Moscou et une victoire à Prague. Cette sélection nord-américaine, qui disputera également la Coupe du Monde, est composée des meilleurs joueurs canadiens et américains âgés de 23 ans au maximum. Rappelons que c'est une compétition organisée par la prestigieuse Ligue nord-américaine NHL, cette Coupe du Monde. Une Coupe du Monde à ne pas confondre donc avec le championnat du monde. Et cette Coupe du Monde se tiendra à Toronto du 17 septembre au 1er octobre. La dernière édition a été organisée en 2004. Sachez encore que la République tchèque débutera le tournoi samedi contre le Canada. Météo enfin, un grand soleil brille comme ces derniers jours sur l'ensemble du territoire tchèque ce jeudi. Jeudi qui est le jour de la fête des Mariana. Les températures restent élevées puisqu'elles varient entre 28 et 30 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel est le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie et plus précisément en la compagnie d'Aljubeta Rushkova. Aljubeta qui nous accompagne pour la suite de cette émission. Très bonne écoute. Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue pour la suite de cette émission de Radio Prague consacrée à l'actualité tchèque. Merci tout d'abord à Guillaume Narret pour ce bulletin d'information. On passe au programme de ce mercredi. Les députés ont adopté un amendement à la loi relative au conflit d'intérêts et cela malgré le désaccord du parti ANO qui la considère comme ciblée contre son leader Andrej Babiš. Plus de détails dans quelques instants. Notre émission se poursuivra ensuite avec un entretien avec la démographe Jitka Richtaříková qui a commenté au micro de Magdalena Hrozinková de nouvelles données relatives à l'évolution démographique en République tchèque et publiées cette semaine par l'Office tchèque des statistiques. Et enfin, place à l'histoire, dans cette nouvelle rubrique hebdomadaire, Pierre Maignan nous parlera d'une conférence organisée au Sénat tchèque à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de François Mitterrand. Bonne écoute à toutes et à tous. Les membres du gouvernement ne pourront plus être les propriétaires de médias. De plus, même s'ils seront autorisés à rester à la tête des entreprises qu'ils dirigeaient déjà avant leur entrée au gouvernement, ceux-ci ne bénéficieront plus de subventions et de commandes publiques. Ce sont deux des principaux points qui figurent dans la loi relative au conflit d'intérêts adoptée par les députés ce mercredi en troisième lecture. Le texte a obtenu la majorité malgré le désaccord du mouvement ANO qui considère ces différences mesures comme une attaque personnelle contre son leader, le milliardaire Andrej Babiš. À l'origine, le principal objectif de l'amendement à la loi relative au conflit d'intérêts était de modifier le système de contrôle des déclarations de patrimoine des politiques et des fonctionnaires à travers la création d'un registre central géré par le ministère de la Justice. Présenté par le ministre en charge des droits de l'homme, Jiří Dienstbier, le projet bénéficiait alors du soutien de l'ensemble de la coalition et de l'opposition. Mais une discorde est apparue entre les trois partis gouvernementaux, à savoir social-démocrate, chrétien-démocrate et ANO, lorsque les députés ont voulu ajouter plusieurs amendements supplémentaires. Concrètement, il s'agit notamment des modifications apportées par le député social-démocrate Jan Chvojka qui vise à interdire aux ministres d'être les actionnaires majoritaires d'entreprises et de posséder des médias, ainsi que du projet du législateur Martin Plíšek du parti Top 09 pour limiter l'accès aux subventions de l'État et aux commandes publiques aux sociétés dont 25% ou plus du capital appartient à un membre du gouvernement. Si la première modification concernant la participation majoritaire a été rejetée, les deux autres, en revanche, ont été approuvées ce mercredi, et cela malgré le désaccord du mouvement ANO qui les estime dirigés contre son leader, le ministre des Finances et vice-premier ministre Andrej Babiš. Le milliardaire d'origine slovaque est en effet à la tête d'Agrofert, un groupe agroalimentaire qui comprend différentes entreprises participant régulièrement aux appels d'offres, ainsi que de la société de médias Mafra, qui regroupe les quotidiens Mladá fronta Dnes et Lidové noviny, la station de radio Impulse ou encore la chaîne de télévision Očko. Avant le vote final, le président du groupe parlementaire du mouvement ANO, Jaroslav Faltinek, a indiqué.
Potvrdil to na svém tweetu předseda ODS Petr Fiala.
Notre opinion a été confirmée par la déclaration du chef du parti ODS, Petr Fiala, sur son compte Twitter. Il a indiqué que la loi relative au conflit d'intérêts résout avant tout le conflit d'intérêts d'Andrej Babiš. Il n'y a pas de raison d'affirmer le contraire. Une loi visant une seule personne n'est pas idéale, mais elle est toutefois nécessaire. Ce principe est donc la raison pour laquelle les députés d'ANO ont décidé de ne pas soutenir la version finale de la loi.
Bien qu'il ait renoncé à l'idée de se présenter devant la Chambre des députés ce mercredi et de voter sur l'adoption de la loi, parfois désigné comme l'ex Babiš, Andrej Babiš a pour sa part constaté.
Il s'agit d'un mauvais exemple sur la manière de dissuader les personnes qui réussissent de faire de la politique à la place de ceux qui sont déjà là depuis 20 ans et ne font que papoter. Bien sûr, le fait que je possède des médias n'est pas idéal et j'en suis désolé. Mais d'un autre côté, on voit des médias qui ont différentes influences.
Jako vidíme různé média, které jsou různě ovládané.
Les autres partis considèrent, eux, ces changements d'un bon œil. Pas moins de 135 des 183 députés ayant voté se sont prononcés en faveur de la loi. C'est le cas aussi du Premier ministre Bohuslav Sobotka qui s'est félicité de son adoption sur son compte Twitter. Le député du parti d'opposition ODS, Zbigniew Stanjura, a ajouté.
Ce projet de loi n'empêche pas les chefs d'entreprise de participer à la politique. La seule restriction que cela apporte est que dans ce cas, les membres du gouvernement n'auront plus accès aux finances publiques et ne pourront plus posséder de médias. Il ne s'agit pas nullement d'une limitation de l'entrée des personnes riches dans la politique.
La loi qui introduit également l'obligation pour tous les politiciens de déclarer leur patrimoine lors de leur prise de fonction sera prochainement examinée par le Sénat. Selon Jaroslav Faltinek du mouvement ANO, son éventuelle adoption définitive pourrait néanmoins encore faire l'objet de plaintes auprès de la Cour constitutionnelle. L'Office tchèque des statistiques a publié cette semaine de nouvelles données relatives à l'évolution démographique en République tchèque, où vivent désormais 10 564 900 habitants. Malgré un taux de fécondité toujours très faible, la population tchèque a augmenté de 11 000 personnes depuis le début de l'année 2016, une hausse qui s'explique essentiellement par un solde migratoire positif. Un autre chiffre est aussi intéressant à observer. Au cours des 10 premiers mois de l'année, près d'un enfant sur deux est né d'une femme célibataire. D'après les spécialistes, ce nombre de naissances hors mariage, qui croît progressivement depuis 1989, constitue une des tendances démographiques les plus marquantes en République tchèque. Magdalena Hrozinková.
Sur les 55 050 naissances enregistrées au cours des premiers mois de l'année, presque 48% des enfants sont ainsi nés hors mariage. La démographe Jitka Richtaříková de la Faculté des sciences naturelles de l'Université Charles précise.
Ce ne sont pas seulement les femmes célibataires, ce sont aussi les femmes divorcées et les veuves, mais c'est tout à fait vrai qu'à peu près 90% parmi ces femmes qui ont les enfants hors mariage sont des femmes célibataires, c'est-à-dire le poids des femmes célibataires augmente dans cette tendance-là. Ce sont surtout les naissances de premier rang, tandis que les enfants de deuxième rang naissent surtout au sein d'un mariage légal. Et concernant le niveau d'instruction, ce sont surtout les femmes ayant le niveau d'instruction le plus bas. C'est-à-dire, si on prend les femmes ayant le niveau d'instruction le plus bas, une école élémentaire, c'est-à-dire à peu près 9 ans de scolarité, c'est-à-dire à peu près parmi eux, 75% des enfants naissent hors mariage, tandis que si l'on prend les femmes ayant le niveau d'instruction universitaire, là-bas c'est à peu près 27%. Donc si on compare, on voit un quart contre trois quarts.
Une situation bien différente de celle de l'ex-Tchécoslovaquie socialiste. En 1989, l'année de la révolution de velours, seuls 8% des enfants étaient nés de mères célibataires. Jitka Richtaříková explique.
Sous le régime socialiste ou communiste, c'est vrai que le pourcentage des universitaires était beaucoup plus bas. C'est-à-dire, si on voit l'hiérarchie de naissance hors mariage, selon le niveau d'instruction, c'était toujours les femmes ayant le niveau d'instruction le plus bas qui ont eu les enfants hors mariage ou le pourcentage des enfants hors mariage le plus élevé. Mais c'est vrai que les chiffres ont été beaucoup plus bas parce que dans ce régime-là, le mariage était très important, c'était très bien vu. Aujourd'hui, la situation a changé beaucoup parce que quand même, aujourd'hui, le mariage, on peut le considérer comme une obligation ou plutôt un engagement, c'est-à-dire, tandis que dans le passé, le droit d'enfants ou de la mère étaient beaucoup plus protégés maintenant avec le marché libre, c'est-à-dire la femme célibataire ayant des enfants dans une situation beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas de protection sociale qui était auparavant.
À l'échelle européenne, la République tchèque ne fait pas figure d'exception. D'autres pays comme la Hongrie ou les Pays-Bas affichent à peu près le même nombre de naissances hors mariage. En Islande, ce chiffre est encore plus élevé et dépasse 66% des naissances. Jitka Richtaříková.
Je suis tout à fait d'accord que c'est un phénomène général. Si on prend aussi la France, c'est à peu près plus que 50%. Mais ce que j'aimerais dire, que la situation sociale des enfants hors mariage ou situation légale ou de droit est un peu différente parce que, par exemple, en France, on a les PACS, tandis que ici, on n'a pas cette possibilité-là. C'est-à-dire, chez nous, surtout, ce sont les enfants, comme j'avais déjà dit, de premier rang, je crois que ça diminue aussi le niveau de fécondité parce que les femmes restent avec un enfant s'ils n'ont pas un partenaire souhaitable. Apparemment, on voit les mêmes chiffres, c'est-à-dire le même pourcentage. Mais la situation de ces enfants, à mon avis, est un peu différente parce qu'ici, surtout, ce sont les femmes avec le niveau d'instruction plutôt bas qui ont un partenaire qui est instable, qui est au risque de chômage, qui sont plutôt des mères seules. Donc, je ne crois pas que c'est tout à fait comparable. Que la situation sociale de ces mères célibataires est tout à fait comparable avec la situation sociale des femmes dans les pays occidentaux. En plus, en France, je crois que les mesures familiales sont beaucoup en faveur de la famille, de l'enfant, tandis que ici, c'est quand même un peu plus compliqué, plus difficile, il y a le manque de des écoles maternelles, les enfants en bas âge, il n'y a pas de crèche presque, donc la situation ici est beaucoup plus difficile aussi concernant l'emploi des femmes avec les petits enfants, donc je crois que ce n'est pas tout à fait comparable, malgré le fait que le pourcentage est en hausse, est apparemment le même.
C'est donc la fin de ces faits et événements. Vous êtes à l'écoute de Radio Prague et on passe à la deuxième partie de notre programme. À l'occasion du 5e anniversaire de la naissance de François Mitterrand et de l'apparition d'un livre du journaliste Milan Siruček sur le destin du grand homme, était organisée au Sénat tchèque ce mardi une conférence consacrée à l'œuvre européenne de l'ancien président français, avec Hubert Védrine, Jaroslav Šedivý ou bien encore Lubomír Zaorálek. L'échange a permis de mettre en perspective la politique de François Mitterrand vis-à-vis de cette Europe qu'il appelait de l'Est. Une politique qui reste marquée pour les Tchèques par le petit déjeuner de décembre 1988 avec les dissidents tchécoslovaques, dont Václav Havel. C'est un reportage de Pierre Maignan.
Chapitre de l'histoire.
Milieu des landes, des bruyères, silhouette insolite, bloc de granit, dont on foule la terre.
Celui que le chanteur Renaud et d'autres avec lui appelaient affectueusement Tonton aurait célébré cette année son 100e anniversaire. Car comme l'a souligné Hubert Védrine, François Mitterrand est né en 1916 durant la bataille de Verdun. Et sa vie a ainsi été marquée par les grandes tragédies de l'histoire du XXe siècle. L'ambassadeur français en poste à Prague, Jean-Pierre Azvazadourian, qui vient tout juste de quitter ses fonctions, a lui établi un autre lien, celui-là entre la naissance de Mitterrand et l'histoire tchèque.
François Mitterrand a vu le jour à Jarnac, en Charente, au moment même où se formait dans cette ville une unité de légionnaires tchécoslovaques qui deviendra le 22e bataillon tchécoslovaque, l'un des éléments constitutifs de la future armée de la nouvelle République tchécoslovaque.
L'intitulé de la conférence était clair, il s'agissait de discuter l'œuvre européenne de François Mitterrand et son héritage aujourd'hui. Ayant lieu à Prague et au vu de la qualité des intervenants, la question de sa politique à l'égard de la Tchécoslovaquie puis de la République tchèque a été logiquement largement abordée. L'exposé de Hubert Védrine, conseiller très proche de François Mitterrand à différents postes durant ses deux septennats de 1981 à 1995, a permis de lier ces différentes dimensions. Le diplomate, ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement Jospin, a présenté la situation géopolitique européenne telle qu'elle se présentait lors de l'accession au pouvoir du candidat du Parti socialiste. Les relations internationales sont alors marquées par la crise des euromissiles, partisan d'une ligne de fermeté à l'égard de Moscou, qui a placé des missiles SS-20 visant l'ouest du vieux continent. François Mitterrand entame à cette époque une collaboration poussée avec le chancelier allemand Helmut Kohl. Selon M. Védrine, Mitterrand a dès le départ la certitude que l'Union soviétique et les démocraties populaires sont à terme condamnées.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand Mitterrand donc voyait venir les changements, ça s'est évidemment accéléré quand Gorbatchev est arrivé. Parce que Gorbatchev a expliqué à George Bush père, à Mitterrand, à Thatcher, etc., qu'il n'emploierait jamais la force pour maintenir les régimes communistes en Europe centrale et orientale. Donc, dès ce moment-là, pour nous, autour de Mitterrand, la cause était entendue. Ces régimes étaient morts. C'était des morts vivants. Mais on ne savait pas quand ça allait se concrétiser.
La mort attendue de ces régimes implique d'anticiper quel sera ensuite le nouveau visage de l'Europe. Hubert Védrine rappelle que certains considéraient que cette affaire ne pouvait s'achever que par la guerre. Dès sa réélection en 1988, François Mitterrand annonce sa volonté de se rendre dans tous les pays d'Europe centrale et orientale, à l'exception de la Roumanie de Ceausescu. Il s'agit en particulier de nouer des relations avec les forces dissidentes qui semblent devoir être, dans un horizon de temps forcément incertain, les futures classes dirigeantes de ces contrées, de pouvoir par la suite accompagner leur transition démocratique et leur probable volonté de se tourner vers l'ouest du continent européen. Hubert Védrine.
Ça s'est traduit par le fait qu'il a voulu aller à Prague très vite parce qu'il y avait un symbole historique au poids de l'histoire, vous voyez. Munich, l'avant-guerre, l'après-guerre, etc. Mais il a été partout en fait.
Partout, la mémoire de cette visite reste vivace, et particulièrement en Tchécoslovaquie, au regard de la légitimité que va accorder pour la première fois un pays comme la France à la dissidence tchécoslovaque. Durant son intervention, Jaroslav Chedivi, historien ayant officié en tant qu'ambassadeur à Paris au début des années 1990, a développé les circonstances de la visite présidentielle dans le pays. Elle était d'abord envisagée le 28 octobre, mais devant la portée symbolique de cette date anniversaire de l'indépendance de la Tchécoslovaquie, les autorités tchécoslovaques ont préféré convenir d'un moment ultérieur, en l'occurrence le 10 décembre. Hasard du calendrier peut-être, il s'agit de la Journée internationale des droits de l'homme. François Mitterrand pose trois conditions à sa visite. Il souhaite rencontrer les dissidents, la requête est acceptée et cela donnera lieu au petit déjeuner historique du 9 décembre 1988. En second lieu, il entend s'entretenir avec le cardinal František Tomášek, c'est également accepté. D'après Jaroslav Chedivi, le président français lui aurait tout d'abord demandé s'il pouvait lui parler tout à fait ouvertement, c'est-à-dire sans crainte d'être écouté. Question à laquelle le prélat aurait répondu par l'affirmative, tout en indiquant vigoureusement le contraire, en agitant les bras. Enfin, Mitterrand veut rencontrer les étudiants tchécoslovaques. Cela sera chose faite à Bratislava. En marge de sa visite, François Mitterrand a accordé un entretien, pour le moins fascinant, à Radio Prague, dont on trouve trace dans nos archives. Sans céder à une conception téléologique de l'histoire, l'échange donne l'impression d'un président qui songe déjà à l'après-communisme. Notamment quand Mitterrand évoque sa vision de la coopération future entre ce qui est alors la communauté européenne économique, l'Europe des 12, et les pays appartenant encore aux 10 blocs de l'Est.
Je souhaite très vivement un rapprochement et des échanges entre ce que j'appellerais les deux parties de l'Europe. Ce sont les hasards de la dernière guerre mondiale qui ont tracé cette sorte de frontière politique, économique, sociale, philosophique peut-être, mais que je ne crois pas culturelle. Ce sont les hasards de la guerre. Et puis la force des idéologies ou des systèmes en place. À travers le temps qui vient, je crois que nous devons prendre conscience que nous appartenons au même continent, je viens de le dire. M. Gorbatchev a parlé de maison commune, enfin, notre destin est lié, quelle que soit l'expression que l'on choisisse.
Et François Mitterrand d'ajouter que lors d'une conversation récente avec M. Gorbatchev, il lui indiquait trouver plaisante l'expression « maison commune », mais qu'il pensait déjà, lui, à meubler les étages. Meubler les étages, cela passe par cette rencontre avec les dissidents. La rencontre a lieu au palais Buquois, à l'ambassade de France à Prague, au matin donc du 9 décembre 1988. 8 dissidents sont présents et parmi eux Václav Havel, dont l'anecdote désormais bien connue veut qu'il ait pris le soin d'amener une trousse de toilette au cas où il serait arrêté dès après l'entrevue. Il y avait aussi Peter Hull, signataire de la charte 77, journaliste et politique majeur de la période qui s'ouvrait alors. Présent pour assister à la conférence, il s'est souvenu du fameux petit déjeuner.
Pour moi au moins, c'était très étonnant qu'il a posé, François Mitterrand nous a demandé, il nous a posé une question importante. Ça ne vous gêne pas si après ce petit déjeuner, je me rends au château de Prague et je discute avec Houssac et avec les autres? Alors nous étions surpris tout d'abord et puis nous avons dit mais au contraire, parce que tout le monde est influençable et c'est une influence. Bien sûr, votre présence ici et la discussion. Mais seulement, la discussion avec Houssac est tout à fait correcte, sous la condition que vous rappelez les prisonniers politiques. Et voilà la liste. Je lui ai donné la liste parce que j'étais au nom du comité des personnes injustement condamnées, injustement poursuivies. Et il a appris et il était très heureux que nous acceptions son intention d'aller au château et de parler avec le président de la République et le premier secrétaire du Parti communiste.
Inauguré à l'été 2015 dans les jardins du palais Palfi à Prague, un buste à l'effigie de François Mitterrand commémore désormais ce petit déjeuner. Un peu moins d'un an après sa tenue, survenait la révolution de velours et le régime communiste était balayé. Nombre de dissidents d'hier vont alors occuper les plus hautes fonctions de l'État, Václav Havel évidemment, qui devient le président de la République, et d'autres également, comme Nirji Dinsbirper, qui prend la tête de la diplomatie tchécoslovaque. Au début des années 1990, Jean-Pierre Azvazadourian entame sa carrière internationale à Prague. S'il regrette de ne pas avoir pu assister à la rencontre de décembre 1988, le jeune diplomate a alors l'occasion de participer à d'autres événements importants pour les relations franco-tchécoslovaques.
Mitterrand est revenu en 90, effectivement, pour un autre petit déjeuner. Il avait convié le président Havel cette fois-ci. Et puis, par ailleurs, effectivement, en 93, 5 ans exactement après le premier déjeuner, François Mitterrand est revenu le 9 décembre 93. Il a cette fois-ci déjeuné avec Václav Havel. Et ensemble, ils ont, en quelque sorte, réinauguré l'Institut français. Donc c'était aussi un moment qui était très fort. C'était la consécration du redémarrage des relations politiques, culturelles, économiques, universitaires entre la Tchécoslovaquie et la France.
Comme le note Hubert Védrine, le développement de nouvelles relations bilatérales avec les anciennes démocraties populaires est alors l'une des préoccupations importantes de la diplomatie française. Surtout, il s'agit désormais d'imaginer quelle sera la forme de la coopération européenne entre les démocraties naissantes et l'ouest du continent, alors que l'Allemagne se réunifie et que le projet de monnaie unique se concrétise au sein de ce qui devient l'Union européenne. Fin 1989, François Mitterrand a proposé la création de la Confédération Fédération européenne, une organisation qui doit rassembler tous les pays européens, Union soviétique comprise. C'est à Prague, en juin 1991, que se tiennent des assises visant à développer le projet. Mais il ne verra jamais le jour et suscite au contraire des tensions entre la France et la Tchécoslovaquie. Les États-Unis, non associés au processus, font tout pour s'y opposer. Or, c'est vers Washington que se tournent alors les nouvelles démocraties centre-européennes qui veulent à tout prix échapper à l'œil de Moscou. Yaroslav Chedivy, au cœur de la machine au début des années 1990, en tant qu'ambassadeur à Paris, résume la situation ainsi. Avec les Français, ce sont de grandes idées et ensuite une grande improvisation. Pour Hubert Védrine, la volonté de François Mitterrand a été mal comprise. Selon lui, la Confédération européenne visait à développer une coopération renforcée sans attendre l'adhésion, probablement encore lointaine, des anciennes démocraties populaires à l'Union européenne. Hubert Védrine estime d'ailleurs que Mitterrand avait vu juste, puisque cette adhésion n'a eu lieu que 15 ans après la chute des régimes communistes, comme le prévoyait d'après lui le président français. C'est un avis que partage Petr Hul.
François Mitterrand était un grand européen et son projet de la Confédération européenne était un grand projet et malheureusement il n'était jamais compris par Václav Havel et par les autres et c'est dommage, voilà.
Les incompréhensions sur la question de la Confédération européenne n'ont toutefois pas entaché la qualité de la relation personnelle entre François Mitterrand et Václav Havel, en tout cas si l'on en croit Hubert Védrine.
Oh ben, elle était bonne parce que Mitterrand était déjà à l'époque un personnage absolument considérable, un des phares de l'Europe quand même, un pour les autres, et Mitterrand avait un énorme respect pour le courage d'Havel. Havel le résistant, le dramaturge, l'homme de théâtre, le combattant de la liberté. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'accord sur le mode d'organisation de la Confédération que ça a pu altérer les relations d'estime personnelle. D'où l'histoire des petits déjeuners, le premier, le deuxième et les commémorations.
Voilà, c'est la fin de cette émission présentée par Alžbeta Rušková. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Ahoj.